Après le bilan sportif à 8h20, désormais le bilan diplomatique des Jeux de Pyongyang en Corée du Sud. On en parle jusqu'à 9h avec Olivier Guillard. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Olivier Guillard.
Bonjour.
Est-ce que le grand vainqueur de ces Jeux Olympiques sud-coréens ne serait pas finalement le président sud-coréen Moon Jae-in?
C'est certainement un des médaillés les plus méritants de cet exercice. Il a pris beaucoup de risques politiques, beaucoup de risques diplomatiques, beaucoup ne pensait pas que cet événement pourrait se dérouler dans l'atmosphère de sérénité qu'on a pu voir ces 15 derniers jours. Monsieur Moon, donc, aujourd'hui est tout sourire. Il a remporté un succès de prestige interne. Nombre de Sud-Coréens se demandaient si des Jeux Olympiques d'hiver pouvaient être organisés dans un pays qui était en tension permanente avec son turbulent voisin du Nord. Monsieur Moon a été élu sur la base d'un programme de rapprochement avec le Nord qui était contesté, y compris par les voisins immédiats, notamment le Japon, mais également par le partenaire stratégique qu'est les États-Unis. Tout s'est jusqu'à cette cérémonie de clôture de ce soir bien passé. Monsieur Moon a le sourire aujourd'hui, mais le dossier post-Jeux Olympiques commence dès dans quelques heures. Ce n'est pas gagné.
Vous dites que le président sud-coréen a pris des risques diplomatiques. Est-ce que le principal risque, c'est de souhaiter la détente avec la Corée du Nord, alors que son allié américain et Trump, Donald Trump en tête, souhaite au contraire rester intransigeant et même durcir les sanctions économiques? C'est là le risque diplomatique qu'il peut prendre?
C'est assez bien résumé. Je n'aurais pas dit mieux moi-même sur cette thématique un petit peu sensible dans la région, mais ailleurs. Monsieur Moon, en définitive, donc, appartient à la classe libérale du système politique sud-coréen. C'est un vétéran.
Libéral, mais plus progressiste que ses prédécesseurs.
Indiscutablement. Donc, ses deux prédécesseurs étaient des conservateurs qui avaient la main un petit peu lourde, peut-être
Madame
à raison.
Spark.
Madame Park. Madame Park, également, donc, son prédécesseur qui était peut-être encore un petit peu plus percutant vis-à-vis de Pyongyang. Monsieur Moon a considéré que les 8 dernières années n'ont abouti qu'à une seule chose, c'est isoler davantage la Corée du Nord et avoir de moins en moins de leviers vis-à-vis de cette dernière. Elle le méritait bien. Elle s'est, comme vous en rappelez bien, l'année dernière et l'année précédente, abondamment donc amusée, si je puis dire, à perdre de la prolifération balistique nucléaire. Donc elle a menacé ses voisins immédiats à diverses reprises. Elle a menacé le territoire américain jusqu'à la Maison Blanche et ses deux locataires successifs, donc des pires choses nucléaires et atomiques de l'histoire contemporaine. Et donc Monsieur Moon, lui, s'est dit... ça n'a débouché absolument sur rien. Nous sommes aujourd'hui avec une nation voisine, Corée du Nord, qui est nucléaire de facto, qu'on le veuille ou pas. Et s'il s'agit de dénucléariser la péninsule coréenne comme entendent encore le faire les autorités américaines, bien malheureusement c'est un petit peu trop tard. Donc aujourd'hui il faut faire avec un voisin du Nord qui a été longtemps extrêmement autiste. Aujourd'hui, certainement, donc, parce qu'il y trouve un intérêt évident demain, la Corée du Nord envoie ses armes de séduction massive, donc ces pom-pom girls qu'on a vues abondamment à la télé, lors des retransmissions de ces universités d'hiver. Il a envoyé sa sœur, donc, qui est la première représentante de la Corée du Nord à arriver. Donc les choses se présentent plutôt bien, mais que de challenges encore devant.
On va voir comment va se dérouler sur le plan diplomatique la cérémonie de clôture avec la délégation nord-coréenne, avec Ivanka Trump également et les Sud-Coréens. Pour la cérémonie d'ouverture, aucune poignée de main n'a été possible durant ces Jeux entre les représentants américains et nord-coréens. La faute à qui? Alors, qui a mis de la mauvaise volonté là-dedans?
De toute évidence, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait des accolades extraordinaires et une atmosphère de franche... paix olympique entre les représentants nord-coréens et américains. Cependant, donc, on a vu sur les images qui ont été extrêmement bien tournées, si je puis dire, on a vu des plans qui étaient prodigieux à quelques mètres d'intervalle. Nous avions monsieur Mike Pence, qui est le vice-président des États-Unis, qui était aussi fermé qu'une banquise, donc en plein hiver, et son épouse à côté rigolait à peine moins. Nous avions également le premier ministre nippon, qui n'est pas dans les meilleurs termes avec le régime nord-coréen, qui faisait un visage, il avait envie d'être ailleurs, et nous avions donc en retrait madame Kim, donc la sœur du dictateur nord-coréen qui, elle, donc, faisait mine d'être un petit peu plus détendu. Et nous avions donc tout ce cliché qui est extraordinaire. Et nous avions M. Moon, donc le président sud-coréen qui était à quelques mètres sur la droite, lui, au milieu de tous ces acteurs qui n'étaient pas censés du tout être là, ne serait-ce encore un trimestre plus tôt. Donc M. Moon rayonnait. Madame Kim, donc, avait l'air d'être un petit peu plus dans l'ambiance. Et M. Mike Pence, donc, lui, était là pour afficher la rigueur des États-Unis Et pour faire passer le message subliminal sans dire un mot, qu'il n'est pas venu pour faire dans la poignée de main avec les ennemis et qu'il est également là pour appeler M. Moon, donc le responsable sud-coréen, à ses obligations de fermeté vis-à-vis du Nord. Ça nous donnait un cocktail qui prêtait, qui était aussi glacial que l'atmosphère thermique et que le local.
Et dans un peu plus de 3 heures, ce sera Ivanka Trump, donc la fille aînée du président américain, qui va représenter les États-Unis à cette cérémonie de clôture qui approche. Est-ce que ça peut être l'occasion d'une ultime chance d'un réchauffement, ou au moins des signes de détente entre Corée du Nord et Américains, où il ne faut s'attendre à rien?
Alors, le régime américain, l'administration Trump, nous envoie tous les messages dans tous les sens vis-à-vis de la Corée du Nord et de la nécessité ou de la façon de prendre à bras-le-corps le dossier. Nous avons, donc c'est une administration qui est extrêmement divisée entre s'il faut continuer à appuyer fermement, appliquer de nouvelles sanctions.
C'est ce que souhaite Donald Trump, et il l'a d'ailleurs déjà dit.
Indiscutablement, et pas plus tard qu'avant-hier, donc vendredi, il a appliqué une nouvelle strate de sanctions donc qui renforce la mainmise, la sévérité donc sur l'appareil économique nord-coréen, qui est déjà plus ou moins exsangue, et qui confine pratiquement au blocus économique. Je ne suis pas certain que Mme Trump, avec toute sa touche glamour et son magnifique sourire, donc ne réussisse pour autant à aller dans le sens d'un rapprochement même par la forme vis-à-vis de la délégation nord-coréenne présente. La délégation nord-coréenne qui est beaucoup moins sexy qu'il y a quelques jours, si vous me passez l'expression, puisque nous avons à sa tête aujourd'hui, pour la cérémonie de clôture, un responsable politique qui, vis-à-vis des Sud-Coréens, passe extrêmement mal. C'est celui qui était à l'origine d'un événement...
Mais il faut rappeler cet événement, il y a eu des morts à la clé. Enfin,
bien entendu, donc là nous étions en 2010, et nous avons eu 2 épisodes successifs extrêmement douloureux dans l'histoire sud-coréenne contemporaine. Nous avons eu une torpille nord-coréenne qui est allée couler une corvette sud-coréenne. Ça fait une petite cinquantaine de victimes. Les Nord-Coréens ont toujours dit, écoutez, c'est pas du tout nous. Il y avait une mine qui traînait par là. Ce n'est certainement pas la nôtre. Bon, de toute évidence, ça ne pouvait pas être ni boutanaise ni suisse. Et donc, quelques mois plus tard, nous avons eu un acte de guerre nord-coréen vis-à-vis de la Corée du Sud, puisque l'artillerie nord-coréenne a bombardé une île sud-coréenne dans un périmètre disputé par les deux Corées. Ça fait quelques victimes, et surtout, donc, c'était un acte de guerre qui a réveillé un petit peu l'opinion, en ce sens, en se disant, cette Corée du Nord, elle se nucléarise, elle prolifère, et aujourd'hui, donc, elle nous envoie des obus directement sur le sol. Donc, ça avait été relativement mal senti.
Et donc, le responsable de cette opération meurtrière sera tout à l'heure l'un des représentants nord-coréens pour la cérémonie de clôture.
Oui, il ne pourra pas rivaliser en charme avec Madame Trump, ça, c'est certain.
Contrairement à ce qui s'est passé en 1988 au JO d'été de Séoul, les manœuvres militaires au large du pays ont été suspendues le temps des JO de Pyeongchang. C'est important d'avoir suspendu ces manœuvres militaires. Ça a quel sens, quel signe politique?
Alors, déjà, c'était une condition sine qua non pour que la Corée du Nord participe à cet événement. Donc ces manœuvres militaires sont toujours organisées entre les forces sud-coréennes et les forces américaines entre février et mars. Et il y a toujours un pic de tension entre Séoul et Pyongyang, donc Pyongyang la capitale nord-coréenne à cette époque, puisque Pyongyang décrit depuis toujours ces manœuvres comme la répétition générale d'une invasion à venir des troupes américano-sud-coréano-japonaises dans le nord de la péninsule. Donc la Corée du Nord se crispe à chaque fois en se disant, regardez un petit peu cette masse de militaires, c'est vrai qu'à un certain moment, nous avons plus de 300 000 soldats
qui sont dans la zone.
Oui, ça peut légitimement crisper, mais bon, on n'a jamais eu de...
Alors, que va-t-il se passer dans quelques semaines quand cette manœuvre militaire entre Sud-Coréens et Américains vont reprendre au large de la péninsule? Comment va réagir la Corée du Nord?
De toute évidence, mal, mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, nous avons M. Moon qui essaye de capitaliser sur le bénéfice de cette détente intercoréenne qui pousse son allié américain au report, si ce n'est à l'annulation cette année, de ces exercices. Monsieur Moon fait un pressing considérable. De l'autre côté, nous avons une Maison Blanche qui est intransigeante sur le sujet en disant, on a déjà fait suffisamment de cadeaux à la Corée du Nord récemment, nous avons même été sur la photo avec les dirigeants nord-coréens, ça ne nous plaît pas du tout, et de toute façon, il y va du sérieux de cette entente stratégique entre la Corée du Nord et entre la Corée du Sud, pardon, et les États-Unis, et nous devons donner des gages de sérieux, appliquer une pression maximale, qui est aujourd'hui donc la philosophie de l'administration américaine sur le sujet. Donc l'administration américaine, elle pousse. Si ces manœuvres ont cours, pour l'instant nous avons 8 chances sur 10 d'après, j'étais à Washington il y a quelques jours pour discuter avec mes collègues, pour l'instant nous pensons que ces manœuvres vont être reprogrammées au mois d'avril, au mois de mai, ça va retendre immédiatement les tensions entre les Pyongyang et les Séoul. Et par définition, donc, si la Corée du Nord se retend, elle est capable de reprovoquer d'une manière ou d'une autre le Sud.
Ces tirs balistiques.
Par exemple, c'est sur la table pratiquement. Et si jamais, donc, conséquence de cette conséquence, un nouvel essai balistique intercontinental, par exemple, était mené, il n'est pas interdit de penser que les Américains se fâcheraient eux aussi. J'étais à Pékin il y a quelques semaines plus tôt, on craint également donc ce genre de soucis.
La Chine, parlons-en, parce que nous n'avons parlé pour l'instant que de trois pays, Corée du Sud, Corée du Nord et États-Unis. Il y a une quatrième nation qui joue sa propre partition, c'est la Chine. Pourquoi est-ce que Pékin ne souhaite pas de réunification entre les deux Corées?
Alors très officiellement, Pékin souhaite la réunification entre ces deux Corées.
Mais dans les faits, non.
Dans les faits, et donc dans le discours un petit peu plus trouble, non, pour la raison suivante. Si cette péninsule donc, qui est divisé depuis 1953 par un douloureux conflit intercoréen entre 1950 et 1953 qui a fait 3 millions de victimes et qui a rasé littéralement le nord et le sud. Donc nous aurions une péninsule qui se réunifierait, qui est le souhait d'une majorité de Coréens du nord comme du sud, mais elle se ferait évidemment donc, sous l'influence du plus riche et du plus fort, à savoir la Corée du Sud, et la Corée du Sud est un allié stratégique des États-Unis. Il y a encore aujourd'hui une trentaine de milliers de soldats américains présents sur le sol sud-coréen. La Chine considère que si cette péninsule se réunifiait en un seul morceau, elle aurait un ennemi potentiel sud-coréen, une sorte de clé USB pluguée, si vous me passez l'expression, dans le disque dur continental chinois. La Chine ne veut pas du tout d'avoir l'armée américaine à ses frontières terrestres. Elle considère déjà qu'elle les a donc de l'autre côté de la mer, avec l'archipel nippon et les 50 000 soldats américains. Donc en fait, elle ne le souhaite pas. Elle dit vouloir une détente intercoréenne, ça c'est vrai. Elle dit à vouloir des relations entre Pyongyang et Pékin plus apaisées. Elle l'était par le passé depuis quelques années, depuis que Kim Jong-un est au pouvoir. Elles sont très mauvaise, pour dire les choses, mais elle ne souhaite absolument pas que cette péninsule se réunifie sous les auspices de la Corée du Sud et des États-Unis.
Un dernier mot sur le grand vainqueur donc, de ces JO de Pyeongchang, le président sud-coréen Moon. Il dirige la Corée du Sud depuis mai dernier seulement. Qui est cet homme? Est-ce qu'il est apprécié des Sud-Coréens?
C'est un individu qui est particulier. Donc, c'est un ancien activiste. C'est un ancien défenseur de la cause des droits de l'homme dans ce pays. Il a une certaine aura. On le critique un petit peu, surtout les conservateurs, naturellement. Donc, ils voient un ennemi politique et un ennemi politique dangereux, puisqu'en définitive, on le dit entouré d'un certain nombre de conseillers relativement favorables à l'idée d'une détente à tout prix avec la Corée du Nord. Donc, quitte à passer outre donc, certains principes. C'est un monsieur qui, aujourd'hui, donc, va pouvoir capitaliser sur le fait que ces Jeux Olympiques aient eu lieu, que la Corée du Nord y ait participé, que des représentants américains, y compris donc, Madame Trump, aujourd'hui. Il va falloir, en revanche, qu'il y ait derrière de la suite dans ce bénéfice. Sinon, on va vite lui reprocher d'avoir cette montée bien tendre avec la Corée du Nord.
Eh bien, on suivra donc dans 3 heures à peu près maintenant cette cérémonie de clôture avec Ivanka Trump pour remplacer Mike Pence, le vice-président américain. On appréciera aussi, là encore, la stratégie de Donald Trump qui dit que c'est la fille la plus intelligente pour aller représenter les États-Unis en Corée du Sud, a dit Donald Trump. Merci Olivier Guillard, directeur de recherche donc à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Asie. Je donne le titre de votre dernier livre, « De l'impasse afghane aux errances nord-coréennes », ça sort aux éditions Nuvis. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 8h52.